Je vous remercie tous d'être là pour ce qui est notre dernière séance de l'année universitaire et pas seulement civile. Nous abordons donc le début des années 60 et pour une commodité de présentation, nous pourrons appeler ça les années Kennedy, étant donné que ça a été la personnalité majeure de cette époque. Alors, la dernière fois, j'avais abordé la question du nucléaire israélien, plus exactement le fait qu'à la fin de 1960, on commence à évoquer cette question. Alors, évidemment, le nucléaire israélien, c'est d'abord la création de Ben-Gourion. Ça correspond à la fois à son angoisse de la destruction de l'État d'Israël, et puis aussi, comme pour les gens de sa génération, une espèce de foi naïve dans la puissance, dans la force de la science. Alors, il n'y aurait pas les difficultés considérables pour lancer un tel programme, en particulier pour le financement. Il a donc procédé par étapes. L'architecte de cette action sera Shimon Peres, qui sera en quelque sorte le grand administrateur du programme nucléaire israélien. Alors, ils sont d'abord procédés par la création d'une section scientifique à l'intérieur du ministère de la Défense, ensuite une commission à l'énergie atomique sur le modèle français du commissariat français à l'énergie atomique. Et dès le milieu des années 50, d'ailleurs, des relations de travail ont été établies entre le CEA français et son homologue israélien. De même, les Israéliens ont obtenu un petit réacteur de recherche dans le cadre du programme américain Atom pour la paix. Mais ils s'aperçoivent rapidement que les Américains imposent un contrôle strict sur leur réacteur, ce qui interdit toute dérive vers une utilisation non scientifique. C'est dans le contexte de la crise de Suez, nous l'avons vu, que les Israéliens ont obtenu du gouvernement français la construction d'un réacteur de plus grande taille, capable de produire 10 à 15 kg de plutonium par an, et le site choisi est Dimona, dans le désert. Alors, une série de sociétés écrans sera constituée pour dissimuler le projet qui sera mené par les techniciens français. Alors, sans aucune hypocrisie, les Français ne voient pas à ce moment-là d'utilisation militaire, dans la mesure même où les atomistes français ne sont pas encore arrivés au niveau de la production d'armes nucléaires en 1956-1957. Alors, le programme est aussi clandestin dans son financement. Il n'apparaît pas dans le budget officiel de l'État. Il est financé par des fonds privés collectés auprès de ce qu'on appelle les amis d'Israël dans le monde. Et Ben-Gourion et Shimon Peres sont d'inlassables collecteurs d'argent par le biais de l'entretien privé, évidemment, puisqu'ils n'indiquent pas la finalité en public. De ce fait, il n'y a aucun débat en Israël sur ce programme nucléaire, puisqu'il est totalement clandestin et qu'une grande partie de la classe dirigeante n'est même pas informée de son existence. Et à l'intérieur du parti travailliste, enfin du parti Mapai à l'époque, cette question du nucléaire oppose la jeune garde, représentée par Pérez ou Dayan, à la vieille garde du parti, comme Eshkol ou Gadamer, qui, eux, considèrent que c'est un gâchis financier, ce programme ne menant à rien. Quand de Gaulle retourne au pouvoir en 1958, il met, selon les termes de ses mémoires, un terme à d'abusives pratiques de collaboration établies sur le plan militaire depuis l'expédition de Suez et qui introduisent en permanence des Israéliens à tous les échelons des états-majors et des services français. Donc il met fin à ces pratiques abusives, mais il faut un certain temps pour découvrir l'existence du programme nucléaire. En effet, c'est à l'époque Jacques Soustelle qui est la charge du nucléaire français. Or, Jacques Soustelle est un ardent partisan d'Israël et il accélère plutôt le programme qu'autre chose durant toute sa mandature. L'affaire devient plus sérieuse en quelque sorte quand le 13 février 1960, la France fait éclater sa première bombe atomique dans le Sahara. De ce fait, le programme israélien qui est calqué sur le programme français devient plus sérieux. Et immédiatement après l'explosion de la première bombe nucléaire française, le gouvernement français notifie aux Israéliens l'intention de mettre fin à la coopération nucléaire, puisque la France ne veut pas participer à la prolifération nucléaire, et qui demande donc que Dimona passe sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, ce qui évidemment est considéré comme une catastrophe du côté israélien, ce qui explique le fait que Ben Gurion se précipite à Paris avec Shimon Peres pour discuter avec Charles de Gaulle. Donc il y aura deux niveaux de discussion, les entretiens officiels entre Ben Gurion et Charles de Gaulle le 14 et le 17 juin 1960 et des discussions techniques au niveau ministériel qui sont les véritables négociations. Alors il y aura probablement un malentendu dans les discussions entre Ben Gurion et Charles de Gaulle, surtout qu'il y a eu autour d'une tasse de café en quelque sorte une discussion impromptue. Et dans cette discussion impromptue, on discute de l'Algérie et Ben Gurion aurait proposé, suggéré à de Gaulle de partager l'Algérie avec un déplacement des populations, aux Européens le littoral, aux Arabes l'intérieur. Alors selon les Israéliens, le général s'exclame « Mon Dieu, vous essayez de créer un nouvel Israël en Afrique ?» Oui, répond Ben Gurion, mais il y a une différence. Ce nouvel Israël sera soutenu par la France et ses 45 millions d'habitants et ses alliances dans les pays occidentaux. De l'autre côté, de Gaulle a demandé à Ben Gurion si Israël avait toujours des ambitions territoriales sur le Liban Sud jusqu'au Litanie et sur la Cisjordanie, voire sur le Sinaï. Et Ben Gurion lui a répondu qu'il avait en effet jadis eu ce projet, mais qu'il a abandonné toutes ses perspectives. Alors, la question est que dans la discussion, Ben Gurion aussi insisté sur l'importance de la future immigration juive en Israël. Et ils ont donc tiré de cette discussion des conclusions totalement contradictoires. Ben Gurion est absolument persuadé qu'il a bien fait comprendre à De Gaulle que Israël avait abandonné toute velléité d'expansion territoriale. Ce qui correspond en effet, ce que nous savons aujourd'hui, à l'évolution de la pensée propre de Ben Gurion. En revanche, de Gaulle est totalement persuadé du contraire. Alors, la négociation se continue au niveau ministériel et Couve de Murville, en août 1960, menace d'interrompre unilatéralement la coopération nucléaire s'il n'y a pas d'inspection du site de Dimona. La France étant prête à indemniser les Israéliens. Alors, Shimon Peres revient à Paris et renégocie. Et finalement, comme c'est aussi une histoire de gros sous, on arrive à un accord. Israël fera une annonce que son programme a une vocation exclusivement pacifique. Et la France renoncera à demander des inspections internationales. L'État français va se retirer du projet de Dimona, mais les entreprises françaises engagées continueront à travailler jusqu'à la fin de leur contrat, c'est-à-dire en réalité jusqu'à 1965. Donc, sans participer directement à la construction de l'usine de retraitement, qui est indispensable pour disposer du combustible nucléaire pour les bombes atomiques, la France, en fait, fournira toutes les compétences techniques nécessaires pour l'achèvement du programme israélien. Alors, les Américains, jusque-là, n'avaient rien vu. C'est simplement en étudiant les photos des avions U-2, vous savez, les avions espions américains, que les Américains commencent à s'interroger sur cette usine dans le désert. Et on demande des précisions aux Israéliens qui répondent qu'il s'agit d'une usine textile. Alors, les Américains trouvent que c'est un peu gros et insistent lourdement. Alors, répondent qu'il s'agit de recherche métallurgique. Mais à la fin de l'année 1960, les Américains ont bien la conviction qu'il s'agit d'un projet nucléaire. Et c'est pour cela, pour faire pression, qu'ils organisent des fuites à la fin de l'année 1960 vers la presse internationale qui parle de la première fois de l'opération de Dimona. Donc les Israéliens sont obligés d'expliquer que le programme est purement civil, destiné aux besoins de l'industrie, de l'agriculture, de la médecine et de la science, et que les Français ont pris toutes les précautions nécessaires pour éviter une dérive vers un usage militaire. Comme c'est la fin de l'administration Eisenhower, on attend l'arrivée de la nouvelle administration pour la suite des événements. C'est l'administration Kennedy. Au moment du passage d'administration, le 19 janvier 1961, Eisenhower signale à son successeur qu'Israël aura à partir de 1963 la capacité de produire 10 kg de plutonium de qualité militaire et qu'il faut donc agir tout de suite pour établir un système de contrôle. Alors, le jeune Kennedy, à l'âge de 22 ans, s'était rendu en Palestine et en Égypte durant l'année 1939. Vous voyez là cette photo avec visiblement un officier britannique en Palestine. En tant que parlementaire, il a approuvé la création de l'État d'Israël et s'est rendu dans ce pays en 1951 avec son frère Robert et il a été reçu à ce moment-là par Ben-Gourion, Premier ministre. Devenu sénateur, il s'est peu exprimé sur la question israélo-arabe. Contrairement aux autres démocrates importants du parti, il n'est pas une personnalité qui a pris position forte pour Israël lors de la crise de Suez en 1956-57. En 1957, il s'est rendu brusquement célèbre en prenant position dans un discours public pour l'indépendance de l'Algérie, ce qui lui a donné une très haute cote dans l'opinion publique arabe. Durant la campagne électorale de 1960, il doit prendre ses distances par rapport à son père, qui était connu pour avoir des opinions antisémites fortes. Vous rappelez, le père Joseph Kennedy avait été ambassadeur des États-Unis à Londres en 1938-1940. Il s'était montré partisan de l'apaisement d'Hitler. C'était un munichois, on pourrait dire, un munichois. Et il était connu pour avoir des opinions antisémites. Alors déjà, quand Kennedy était catholique dans un pays majoritairement protestant, et donc, au contraire, il a bien insisté durant la campagne électorale sur les accomplissements de l'État d'Israël et a prôné une conférence internationale sur le Moyen-Orient pour mettre fin à l'état de guerre. De toute façon, en tant que démocrate, le vote juif lui est pratiquement automatiquement acquis dans cette période. Les républicains ayant peu d'attraction sur les juifs américains, et d'autre part, l'administration Eisenhower sortante avait été justement l'administration américaine la moins dépendante de l'électorat juif, enfin celle qui avait le moins ménagé les lobbies divers pro-israéliens aux États-Unis. Et Nixon, qui était le vice-président d'Eisenhower, avait été le rival malheureux de Kennedy durant les élections. Alors, selon l'habitude démocrate, il a avec lui conseiller aux affaires juives, Meir Feldman, qui est chargé donc de maintenir le contact politique avec les juifs américains. Mais le reste de l'équipe Kennedy n'est pas connu comme étant très favorable aux Israéliens. Le nouveau secrétaire d'État, Dean Rusk, est un diplomate de carrière qui, au moment de la création de l'État d'Israël, avait été fait partie du groupe qui était hostile à la reconnaissance immédiate, en tout cas, de l'État d'Israël. Le nouvel ambassadeur américain en Égypte, John Beddow, est un missionnaire protestant qui a auparavant dirigé l'université américaine du Caire et qui aussi en 1948 s'était mis publiquement hostile à la création de l'État d'Israël. Au début des années 60, certes, le lobby pro-sioniste s'est déjà organisé, l'AIPAC a été créé, American Israel Public Affairs Committee, mais si l'AIPAC a une capacité réelle d'influence au Congrès, il n'en a absolument pas sur la Maison-Blanche. Alors, le génie politique de Kennedy va consister à maintenir une politique relativement centriste dans le jeu politique américain, tout en donnant un air de jeunesse à cette politique américaine. Son grand slogan, c'est qu'il est le premier président des États-Unis à être né au XXe siècle. Il donne plus du dynamisme qu'autre chose à une politique qui est finalement très modérée, y compris dans les affaires raciales. C'est aussi un combattant de la guerre froide, un cold warrior, comme son prédécesseur, mais il a le don, le talent, de donner un aspect progressiste à sa vision de la guerre froide. Ainsi, sa prise de position sur l'Algérie lui a acquis une réputation solide d'être anticolonialiste, et donc lui donner une forte réputation dans les pays du tiers-monde. Alors, très habilement, Kennedy va ouvrir tout de suite une correspondance privée, en quelque sorte, avec Nasser, discutant avec lui de l'ensemble des affaires du monde. Évidemment, le leader égyptien ne peut être que flatté de cette correspondance avec l'homme le plus puissant du monde. Mais ça n'interdit pas des sujets qui fâchent, comme la solidarité affichée de Nasser avec Castro, au moment même de l'affaire de la baie des cochons, par exemple. Nasser est aussi très frappé par la présence, comme conseiller de Kennedy, de Walter Rostow. Alors, Walter Rostow était un économiste très très célèbre à cette époque pour un best-seller qui s'appelait « Les étapes de la croissance économique » avec toute la théorie du décollage économique, le « ticking off ». Et malheureusement pour l'Égypte, Nasser va beaucoup s'inspirer des théories de Walter Rostow, ce qui sera plutôt une catastrophe pour l'économie égyptienne, mais ça c'est une autre histoire. Souvent dans ses discours, Nasser des années 60 va évoquer le « taking off », enfin en arabe il le fait en tout cas, à la population égyptienne. Pour simplifier l'idée, c'était plus on injecte massivement du capital et on provoque un mouvement quasi automatique de croissance économique qui débouche sur une révolution industrielle. Et c'est une influence tout à fait négative sur la stratégie économique suivie l'Égypte. Alors évidemment, ce rapprochement entre l'Égypte nassérienne et les États-Unis inquiète les Israéliens. De plus, l'administration Kennedy fait des demandes insistantes pour qu'il y ait des inspections d'Imona. Alors, les Israéliens refusent toute idée d'inspection et acceptent le principe de visite. On en discute pendant un certain temps sans arriver à une décision. Dès mai 1961, Kennedy a lancé l'idée d'un règlement de la question des réfugiés palestiniens. Il a envoyé une lettre programme à l'ensemble des chefs d'État de la région, annonçant une reprise des travaux de la commission de conciliation et la volonté des États-Unis de contribuer à résoudre le tragique problème des réfugiés palestiniens sur la base du principe du rapatriement ou de la compensation, avec une solution équitable pour la question des ressources en eau du Jourdain. Alors, cette proposition américaine prend tout le monde à dépourvu, parce que, on l'a vu de la séance précédente, le débat arabe était plutôt sur la renaissance de la nation, pas du peuple, palestinien. Et Nasser est plutôt, dans cette période, en forte opposition avec la monarchie hachémite de Jordanie. Il faut dire que le roi de Jordanie a le culot de continuer de survivre au pouvoir. Alors que je vous rappelle, on avait vu que tout le monde considérait que la Jordanie n'avait que quelques mois à vivre. Il s'est d'ailleurs remarié avec la reine Mouna, sa seconde femme, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une Anglaise. Donc, de Mouna, il aura un fils, son fils aîné, Abdallah, qui, je saute sur les événements, sera retiré de la succession quelques années après, entre autres parce que c'est le fils de l'Anglaise et que d'autre part le frère cadet de Hussein Hassan venant d'arriver à l'âge adulte, Hussein va désigner donc son frère comme successeur, Hassan et non pas Abdallah, et ceci va durer jusqu'à la veille de la mort de Hussein 30 ans après, où il changera de nouveau l'ordre de succession, et finalement Abdallah, qui avait été retiré de l'ordre de succession, lui succédera sous le nom de Abdallah II, c'est-à-dire l'actuel roi de Jordanie. Donc, passons sur cet aspect people. Et en tout cas, les chefs d'État arabes, pour une fois, répondent prudemment à la proposition américaine, ce qui chagrine les Israéliens, qui comptaient sur un refus arabe pour ne pas avoir besoin de dire non. Alors, en Israël même, il y a un certain nombre de problèmes intérieurs. En mai 1956, vous vous rappelez, Pinhas Lavon avait été réintroduit dans la vie politique israélienne comme président comme secrétaire général du syndicat Estadrout, et puis surtout, il était revenu au Parlement, à la Knesset, aux élections de 1958. Et Lavon est persuadé que son éviction en 1955 était dû à un complot mené par Moshe Dayan et Shimon Peres, et qu'on a utilisé des faux pour le faire tomber du pouvoir. Il demande donc sa réhabilitation complète, et Ben-Gourion refuse que la réhabilitation se fasse sans enquête judiciaire préalable, puisque l'affaire n'avait jamais été soumise à une procédure judiciaire. Il demande donc la constitution d'une commission d'enquête ayant pouvoir judiciaire pour élucider finalement ce qui s'était passé en 1954-1955. Mais la vieille garde du parti s'oppose à la commission judiciaire et propose simplement une commission ministérielle composée exclusivement des membres du parti Mapai pour régler la question, évidemment plus sur un plan d'ordre politique interne que sur un poste judiciaire. Et derrière le conflit qui oppose la vieille garde, c'est-à-dire Eshkol et Golda Meir, à Ben-Gourion, il y a en réalité un choc frontal entre la vieille garde du parti et la jeune garde composée de l'entourage immédiat de Ben-Gourion. La doctrine politique de Ben-Gourion, je vous le rappelle, était l'étatisme, c'est-à-dire, en quelque sorte, tout centré sur un état de droit avec des possessions relatives des forces des partis politiques, même si le Mapai restait de loin le parti hégémonique. Et Ben-Gourion, par ailleurs, qui a maintenant plus de 70 ans, est totalement accaparé par les tâches politiques à la fois des présidents du Conseil et des ministres de la Défense, et donc il ne contrôle plus l'appareil du parti. Alors qu'évidemment, ses adversaires, eux, contrôlent solidement l'appareil du parti. Et donc, sur ce dossier, Ben-Gourion est mis en minorité à l'intérieur du parti. Du coup, il démissionne en janvier 1961. Alors évidemment, la vieille garde cède et lui demande de revenir au pouvoir, et donc Lavon est éliminé des cercles dirigeants du parti. Dans ce cadre-là, on dissout la Knesset et de nouvelles élections ont lieu. Le sujet de bataille, c'est en quelque sorte de savoir si on continue ce que ses adversaires appellent la dictature de Ben-Gourion, ce qui est plutôt un autoritarisme qu'une dictature en tant que telle. Le Herout de Menachem Begin continue à plaider pour une expansion territoriale, pour la conquête de la Cisjordanie. En revanche, Ben-Gourion est tout à fait clair, Israël a des frontières satisfaisantes et il n'est pas question d'envisager maintenant une nouvelle expansion territoriale. Alors, aux élections d'août 1961, le Mapai conserve sa prépondérance mais perd 5 sièges. Il passe de 47 à 42 sièges sur 120. Le Herut conserve une position stable. Ce sont les partis centristes qui progressent, les séfarades n'ayant aucune représentation parlementaire à cette époque. Reste qu'il faut constituer une coalition gouvernementale et que la campagne électorale, c'est en fait pour ou contre Ben-Gourion. Il est difficile à Ben-Gourion de réunir cette coalition. Donc, il prend la direction du gouvernement chargé des affaires courantes, tandis que c'est Lévi Eshkol qui, lui, est chargé d'organiser la coalition, c'est-à-dire de faire les longues négociations pour arriver à un gouvernement de coalition. Alors, autre sujet de controverse que la personnalité de Ben-Gourion, il y a le statut des Arabes d'Israël. Très curieusement, à la fois la gauche, c'est-à-dire les partis ouvriers comme l'Ahdout Avodat et le Mapam, qui sont plus à gauche que le Mapai, et la droite de Begin, demandent la fin du contrôle militaire sur les Arabes d'Israël. On pourrait s'y attendre de la gauche, mais la position de la droite s'explique par le fait que Begin considère que le gouvernement militaire imposé à des populations qui ont la nationalité et la citoyenneté israélienne est un abus de droit et que l'absence de liberté accordée aux Arabes d'Israël constitue un danger pour l'ensemble de la population. Et c'est donc au nom de l'universalité du droit qu'il demande la fin du gouvernement militaire sur les Arabes d'Israël. Alors que les socialistes, eux, exigent le maintien du gouvernement militaire au nom des impératifs de sécurité. Autre dossier, évidemment, celle de l'enquête judiciaire sur l'affaire Lavonne. Et Ben-Gourion cède sur ce point en disant qu'il est prêt à renoncer temporairement à cette commission d'enquête judiciaire sur l'affaire. Pour la première fois, donc, Ben-Gourion a vu sa position politique extrêmement ébranlée, et ce n'est qu'en décembre 1961 que le nouveau gouvernement est formé, et il a une majorité fragile, 63 sièges, sur 120 à la Knesset. Donc on a attendu les élections israéliennes pour rouvrir le dossier de Dimona. Et Shimon Peres a essayé d'expliquer aux Américains que ce qui comptait, c'était l'ambiguïté sur le statut du programme nucléaire israélien. L'intérêt d'Israël est de laisser Nasser dans un état d'incertitude en ce qui concerne la nature et les travaux du projet, car cette incertitude est un élément de la dissuasion israélienne par rapport aux États arabes. Donc on transige et finalement on obtient la visite, pas l'inspection, la visite de deux scientifiques américains qui passe 6 heures sur le site de Dimona, un samedi, c'est-à-dire jour où personne ne travaille. Ils sont très correctement reçus, mais en 6 heures, ils ne peuvent pas voir grand-chose. Ils voient bien une capacité pour la recherche, mais doivent reconnaître que le réacteur pourrait être éventuellement reconverti à des fins militaires, et donc suggèrent la poursuite des visites. Donc, ce dossier est temporairement fermé et Kennedy peut maintenant rouvrir le dossier des réfugiés palestiniens. Et rencontre d'abord Ben Gurion en visite privée à New York, puisque je vous rappelle, la politique américaine était d'éviter les visites d'État des chefs d'État engagés dans le conflit israélo-arabe. Alors, Kennedy explique, au sujet de Dimona, qu'il part du principe qu'une femme doit être non seulement vertueuse, mais aussi avoir l'apparence de la vertu, et qu'il en est de même pour le nucléaire israélien. Et donc, Israël doit donner des garanties de non-prolifération. Et Ben-Gurion lui répond en lui tartinant une longue explication sur l'usage de l'énergie nucléaire pour la désalinisation de l'eau de mer, ce qui réglerait au passage la question des eaux de Jourdain. Et ensuite, Ben-Gurion reprend la demande déjà faite à l'administration Eisenhower de la livraison de missiles sol-air, Hawks, car Israël est très inquiet de la montée en puissance de l'aviation de bombardement égyptienne. Mais Kennedy lui répond que le problème avec les missiles Hawks, c'est que c'est des missiles et que la position américaine, c'est de ne pas pousser le Moyen-Orient à entrer dans une course aux armements balistiques, même défensifs. Donc, on réétudiera la question. Sur le chemin du retour, en juin 61, Ben-Gurion repasse par Paris, où il est reçu par De Gaulle. C'est là où il y a le célèbre toast au repas officiel de De Gaulle. « Nous tenons à vous assurer de notre solidarité, de notre amitié, et je lève mon verre à Israël, notre ami et notre allié. » Alors, c'est à la fois, évidemment, un rappel solennel de l'alliance franco-israélienne. C'est probablement aussi un coup de main de De Gaulle à Ben-Gurion lors de la campagne électorale qui est en cours. Dans les entretiens séparés entre Golda Meir et Coupe de Murville, on a abordé la question des Juifs d'Algérie et la position du gouvernement français est claire. Il n'y a pas de Juifs en Algérie. Il n'y a que des citoyens français. Et que donc toute intervention israélienne dans le dossier algérien serait malvenue, puisqu'il n'y a pas de problème de réfugiés juifs en Algérie. Et en revanche, Coupe de Murville et Golda Meir sont tout à fait d'accord sur le dossier des réfugiés palestiniens qu'ils voudraient avoir réglé depuis longtemps. Et Coupe de Murville dit que c'est même la faute à l'humanitarisme américain. Si les Américains avaient cessé de financer l'UNRWA, il y a longtemps que le dossier des réfugiés aurait été réglé. Donc, la question semble plutôt bien partie. Il n'en reste pas moins que Kennedy a demandé la relance de la commission de conciliation. Et c'est les Israéliens les premiers, 18 juin 1961, qui ont montré leur hostilité à cette proposition américaine. Alors, les autres Arabes finissent par répondre, bon, Qassim en Irak de façon négative. Voilà le général Qassim. Mais on vous rappelait qu'il avait fait de la renaissance palestinienne un arme de combat contre Nasser. Le roi Saoud d'Arabie Saoudite répond de façon injurieuse, mais tout le monde attribue ça à l'influence de son représentant aux Nations Unies, Ahmad al-Shoukairi, qui est un Palestinien connu pour la virulence de son discours. Donc, là aussi, on ne fait pas trop attention. Le roi Hussein se montre ouvert à une reprise des travaux de la commission. Fouad Chehab au Liban aussi. Mais, à la fin 61, la véritable question qui préoccupe le monde arabe, c'est le Koweït, puisque l'émirat du Koweït vient d'accéder à l'indépendance. L'Irak revendique le Koweït comme faisant partie de son territoire national. La Grande-Bretagne envoie des troupes à Koweït pour protéger l'émirat. Nasser soutient l'indépendance du Koweït, rien que pour embêter l'Irak. Et finalement, ce sont des troupes arabes, en particulier égyptiennes, qui viennent prendre la relève des troupes britanniques à Koweït pour maintenir l'indépendance de l'émirat. Et de toute façon, ensuite, l'Irak est trop préoccupé par l'accroissement de la révolte kurde pour relancer le dossier du Koweït. Sur le plan international et pour mémoire, signalons la mort le 17 septembre 1961 d'Amar Jol dans un accident d'avion en Afrique et son remplacement comme secrétaire général de l'ONU par le Birman Utan. Là, finalement, au mois d'août, les Américains désignent le représentant délégué à la commission de conciliation pour la question des réfugiés de Palestine. Il s'agit de Joseph Johnson, qui est le président de la Fondation Carnegie. Alors, il va d'abord, évidemment, s'informer auprès des uns et des autres de leur position officielle. Évidemment, il reçoit tous les discours habituels sur le dossier, mais il trouve que l'ensemble est plutôt encourageant et que l'on peut continuer à travailler. Autre élément du contexte, c'est que la Syrie fait sécession le 28 septembre 1961 de la République arabe unie. Bon, ça se fait pas sans douleur. L'Égypte ne reconnaît pas la validité de la scission. Et l'Égypte conserve le nom de République arabe unie et maintient une politique de déstabilisation permanente du nouveau gouvernement syrien. En janvier 1962, Joseph Johnson démarre sa seconde mission sur le terrain. Cette fois, il ne s'informe pas seulement, il fait des propositions. Son idée est de procéder à une expérience test concernant une vingtaine de milliers de réfugiés. On le permettrait, en les informant clairement des conditions, de choisir entre le rapatriement en Israël, avec les difficultés que cela poserait pour eux, et ou la réinstallation dans le pays hôte, ou troisième hypothèse, l'émigration à l'extérieur du Moyen-Orient. Et Johnson considère que très probablement la majeure partie des réfugiés opterait pour soit la réintégration, enfin l'intégration sur place, soit sur l'émigration à l'extérieur, plutôt que sur le retour en Israël. Un facteur utilisé pour aider la mission Johnson, l'administration Kennedy amplifie l'aide économique à l'Égypte nassérienne et en même temps aussi à l'État jordanien. N'en reste pas moins que Nasser est obligé de faire des gestes par rapport à la montée ou la remontée du sentiment palestinien et le 10 mars 1962, il crée un nouveau statut constitutionnel provisoire pour la bande de Gaza, territoire défini comme faisant partie intégrante de la Palestine, elle-même partie de la nation arabe. Donc on crée un ensemble d'institutions à Gaza, sous contrôle égyptien, mais ces institutions porteront toutes le nom d'institutions palestiniennes. Et dans le même discours, Nasser définit la Cisjordanie comme partie intégrante de la patrie palestinienne, injustement annexée au royaume imaginaire de Hussein. Ce qui est plutôt charmant pour le roi. Quant à Qassim, il surenchérit en disant « Ben, on a commencé la guerre de guérilla contre Israël ». Reste que la Syrie, qui est complètement isolée, elle, se heurte directement aux Israéliens sur les histoires du lac de Tibériade et de la zone démilitarisée, avec des incidents relativement violents. Alors, à la mi-avril 62, Joseph Johnson présente de façon plus méthodique son projet. Il s'agit plus simplement d'une tranche test de 20 000 personnes, mais de passer de par tranches successives de 20 000 personnes, et selon ses estimations, seulement 40% des réfugiés demanderaient le retour, les autres choisiraient l'intégration sur le terrain ou l'émigration. Alors évidemment, ceux qui militent le plus contre le projet Johnson, ce sont les Libanais, hein, qui ne veulent absolument pas entendre parler d'une telle intégration. Nasser, lui, est plus modéré. Il fait clairement comprendre que ce qui l'intéresserait, c'est que s'il y a suffisamment de retours, l'État d'Israël cesserait d'être un État juif, ce qui, pour lui, serait extrêmement positif. Les représentants palestiniens, c'est-à-dire soit Benjamin el-Husseini, qui dirige toujours son haut comité en exil, ou Ahmad el-Shoukairi, qui est toujours à l'ONU, eux, ont un ton virulent de condamnation des propositions américaines. Alors, en fait, on voit très bien que nous sommes dans un climat dit de guerre froide arabe, opposant progressistes et conservateurs dans le monde arabe. Il semble d'ailleurs que le terme guerre froide ait été utilisé pour la première fois lors de la mission Johnson. C'est un interlocuteur égyptien de Johnson qui a parlé de la guerre froide arabe, et ensuite Johnson a répété le terme à ses interlocuteurs israéliens qui l'ont repris, et le terme entre donc dans l'usage courant. Golda Meir l'emploie dans un discours à la Knesset le 25 juin 1962. Alors, comme il y a guerre froide, il y a durcissement des positions. Quant aux Israéliens, ils font sourde oreille sur la question des réfugiés, mais en revanche, ils demandent de façon quasi obsessionnelle la livraison des missiles Hawks. Voilà un missile Hawks, enfin une batterie de missiles Hawks, belle photo couleur, comme vous pouvez le voir. Alors, cette question va devenir centrale dans les rapports entre les Américains et les Israéliens. Elle a en fait deux sens. D'abord, la question purement technique de disposer de missiles sol-air de bonne qualité, ce qui est quand même important sur le plan militaire, mais surtout les Israéliens veulent obtenir cet armement de la part des États-Unis, c'est-à-dire engager réellement les États-Unis dans un processus d'armement de l'État d'Israël et ne plus passer par les Européens. Et c'était pour la même raison que les Américains jusque-là avaient fait sourde oreille aux demandes israéliennes. Alors Shimon Peres va agir aux États-Unis de la même façon qu'il a agi en France quelques années plus tôt. C'est-à-dire qu'il va court-circuiter le ministère des Affaires étrangères, ici le département d'État, pour s'adresser directement aux militaires américains, et aussi par le biais du Conseil national de sécurité ou de sécurité nationale. Alors aux militaires, Shimon Peres explique que la vente des Hawks est de nature défensive, car ça neutraliserait l'aviation égyptienne et la capacité égyptienne dite de première frappe, en langage militaire, c'est-à-dire d'attaque surprise. Au second, il évoque ainsi le maintien d'un équilibre des forces au Moyen-Orient. Et il laisse entendre que plus les Israéliens seront armés, moins ils auront tentation de se lancer dans une aventure militaire défensive, préventive contre leurs adversaires arabes. Alors, exactement comme en France quelques années plus tôt, ce sont les militaires américains qui se font les avocats de thèse israélienne, tandis que les diplomates sont extrêmement réticents. Pour les diplomates, si on cède sur les Hawks, ce sera le début d'un engrenage inexorable qui entraînera les États-Unis d'année en année à fournir de plus en plus d'armement à Israël, donc qui fera cesser la position de neutralité américaine dans le conflit, et ça amènera l'ensemble, l'aliénation du monde arabe par rapport aux États-Unis. D'autant plus que l'Union soviétique en profitera pour armer les Arabes, et donc que finalement, les États-Unis seront amenés à financer directement une course aux armements au Moyen-Orient. On a une discussion en quelque sorte en termes de calendrier. Les militaires pensent à l'immédiat. Il y a une vulnérabilité israélienne en matière de première frappe égyptienne qu'il s'agit seulement de compenser, tandis que les diplomates raisonnent à moyen ou à long terme. Alors, le 7 juin 1962, Joseph Johnson dépose son rapport définitif, c'est-à-dire donc une opération test qui est abandonnée, mais la proposition d'une compensation de l'ordre de $1,500 par réfugié, ce qui amènerait son programme à un coût de $1,400 milliards de dollars, et on ferait passer à tous les chefs de famille de réfugiés concernés un questionnaire. Là, vous avez sur l'écran une version française du questionnaire de Johnson, nom, date de naissance, nom du père, nom du grand-père, etc. Ensuite, préférez-vous rentrer dans ce qui est maintenant Israël, que vous puissiez ou non regagner votre ancien foyer, oui ou non? Préférez-vous rentrer si vous pouvez regagner votre ancien foyer, oui ou non? Si vous préférez rentrer, êtes-vous prêt à vivre en paix avec vos voisins en tant que résident d'Israël, respectueux des lois, oui et non, etc., etc., etc. Il y en a pour plusieurs pages. C'est le questionnaire de Johnson. Alors, les diplomates américains qui sentent que la thèse israélienne progresse à l'intérieur ont eu une idée mauvaise, à mon avis, enfin, ça marche toujours comme ça, de faire un linkage, c'est-à-dire un lien. C'est-à-dire de conditionner la vente des Hawks à l'acceptation israélienne de la mission Johnson. Donc, en quelque sorte, tranquillisé par sa sécurité, Israël se montrerait plus souple sur cette question des réfugiés. Et on aurait donc un plan en 10 ans, ce qui ferait un coût moyen de un peu plus de $100 millions par an, dont le coût réparti entre Israël 40%, les États-Unis 30%, le reste du monde 30%. Israël aurait un droit de contrôle sur chacun des retours, mais devrait agir de bonne foi sous la supervision de l'ONU. Outre la compensation pour les biens perdus, de l'ordre de $1,500 à peu près, chaque réfugié recevrait une allocation de $250, quel que soit son choix. Parce qu'il y a un problème technique compliqué, c'est que vous avez des réfugiés qui étaient sans biens, sans fortune. Alors eux, on ne peut pas leur donner des compensations pour des biens perdus, puisqu'ils n'ont pas de biens perdus. Mais on a besoin d'injecter de l'argent pour leur réinstallation. D'où cette somme forfaitaire, quels que soient les biens perdus. Alors, on en reste là, et les Américains commencent à avoir quelques migraines sur le dossier moyen-oriental, parce qu'ils se rendent compte que leur aide économique à l'Égypte, essentiellement sous forme de livraison de produits agricoles, certes permet de modérer relativement la politique égyptienne, mais en même temps, ça permet à la République arabe unie de dégager un surplus financier qui lui permet d'acheter des armes à l'Union soviétique, hein, puisque les budgets sont fongibles, quel que soit qu'en pensent les comptables nationaux. C'est un problème pour la politique américaine. L'Égypte est très bien représentée à Washington par l'ambassadeur Mustafa Kamel, qui est très bien reçu dans les cercles dirigeants américains. Vous voyez ici avec le président Kennedy. Et il donne toutes les assurances nécessaires, en particulier ce qui deviendra un thème dominant de la diplomatie égyptienne dans cette période. Nasser est prêt à mettre le dossier palestinien au réfrigérateur, une icebox, si vous voulez, au congélateur, dans la glacière, c'est-à-dire de ne pas le ressortir si les Américains continuent à fournir de l'aide à l'Égypte. De toute façon, la République arabe unie n'attaquera jamais Israël. Comme les États-Unis ne peuvent fournir de l'armement à la République arabe unie, les Égyptiens sont bien forcés de se tourner vers les Soviétiques. Donc, en août 1962, le nouveau plan américain est prêt. Il s'agit d'envoyer un émissaire secret à Ben-Gurion, lui proposant à la fois les Hawks, une garantie de sécurité américaine, une garantie de financement du règlement de la question des réfugiés, avec, si nécessaire, un quota maximal pour le nombre de retours. En échange, les Israéliens accepteraient d'appliquer loyalement le plan Johnson. Le plan est finalisé à la mi-août 1962, d'autant plus qu'on travaille dans la perspective du prochain renouvellement du mandat de l'UNRWA. Donc l'émissaire américain se rend à Tel Aviv, où il est reçu par les dirigeants américains. Alors il commence par la bonne nouvelle, comme d'habitude, comme il se doit, c'est-à-dire que les Hawks seront livrés à Israël, puis aborde la question de Johnson. Alors, Ben-Gurion est obligé de céder sur un certain nombre de points, mais indique que le quota maximal que les Israéliens seraient prêts à accepter serait 10% des réfugiés, c'est-à-dire 100-110 000 personnes. Quant à Golda Meir, elle est beaucoup plus dure et beaucoup plus négative que Ben-Gurion sur le dossier. Alors évidemment, un émissaire en parallèle a été envoyé à Nasser, qu'il reçoit à courtoisie, donc on lui annonce vite pour commencer la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire la livraison des Hawks, et ensuite on lui parle du plan Johnson. Et Nasser reste dans sa position. Il est plutôt favorable au plan Johnson dans la mesure où le plan Johnson changera la réalité démographique d'Israël, qui cessera d'être un État mononational pour devenir un État binational. Et dans quelque sorte, un État binational cesserait d'être une menace pour l'Égypte. Donc, une fois que le plan a été communiqué aux principaux intéressés, on le communique à l'ONU qui est censé l'appliquer et à la commission de conciliation qui est censée être l'organe responsable. C'est donc en particulier à la France puisqu'elle est membre de la commission de conciliation. Alors, le problème est le calendrier. Nous sommes à l'automne 1962, c'est-à-dire qu'il y a des élections de mid-term aux États-Unis et que Kennedy ne souhaite pas que le plan Johnson soit rendu public avant les élections de novembre 1962. En revanche, les hommes du département d'État poussent à la publication la plus rapide possible du plan Johnson, dans la mesure où ils ont de plus en plus le sentiment que le Moyen-Orient est entré dans une course contre la montre, étant donné la proximité de la fin des travaux israéliens sur la dérivation des eaux du Jourdain et du risque de conflit que cela entraînerait avec les États arabes. Il faut dire, par exemple, qu'en septembre 1962, il y a eu des incidents de nouveau violence dans la DMZ, dans la zone démilitarisée, avec la Syrie, et Rabin, qui est à ce moment-là premier adjoint au chef d'état-major, fait son premier avertissement à la Syrie. Si Israël aspirait à la paix avec son voisin, il n'en entendait pas moins défendre fermement son droit à mettre en valeur cette région fertile et riche en eau. Si cela est nécessaire, l'armée de défense, c'est-à-dire l'armée israélienne, saura défendre ce droit hier comme demain et comme elle l'a fait dans le passé. Donc, la question reste ouverte et, en effet, en décembre 1962, deux nouvelles confrontations violentes opposent Israéliens et Syriens dans la DMZ. Et cette fois, Ben Gurion menace d'opérations israéliennes de grande envergure à l'intérieur du territoire syrien. Et nous allons ensuite passer à la pause de 5 minutes avant d'aborder la suite de ce feuilleton.